15h sur fréquence Mistral et c'est l'heure du rendez-vous que vous attendez tous. On retrouve Serge pour Radio Jardin. Bonjour Serge.
Bonjour Alexia.
Alors un petit rappel pour commencer à nos chers auditeurs.
Donc la taille des arbres d'ornement, c'est la fin. Il faut arrêter de les tailler parce qu'ils sont en feuilles et bourgeons. Donc il faut arrêter la taille, autrement c'est pas recommandé, c'est pas bon. Continuez bien sûr les traitements de rosier. Traitement total, toujours en bio, je préconise toujours ça. Et respectez bien les dosages surtout. On va passer dans le semis du gazon. Semis du gazon, donc si vous avez votre gazon à refaire, il faudra passer le motoculteur sur 15 à 20 cm. Sur l'ensemble du jardin, mettre à certains endroits où vous avez vos arroseurs, des tuteurs pour bien les repérer, surtout, c'est très important. Donc après, une fois que vous avez passé le motoculteur, faire vos niveaux avec votre râteau, égaliser, retirer les mottes de terre, les pierres, les mauvaises herbes. Et après, on va faire l'ensemencement ou en manuel ou en mécanique avec un petit semoir mécanique. Enfin, moi, en manuel, c'est très bien.
Oui, vous préconisez le manuel. Et c'est quoi la différence pour les... Est-ce que c'est plus rapide si on utilise le mécanique, par exemple?
Pas spécialement. Moi, je veux dire... Si on le fait à la main, c'est très bien, 30 à 50 grammes au mètre carré, donc vertical et horizontal. Après, on enterre très légèrement les graines avec le râteau. Et après, en dernier, on met de la tourbe morte. La tourbe morte, c'est comme, on va dire, du terreau, mais c'est légèrement plus léger. On va mettre un demi-centimètre. Ça va éviter à la fourmi de voir la graine. Et où on met aussi de la poudre anti-fourmée en bio, mais c'est nettement plus cher. Donc la tourbe, c'est nettement moins cher et c'est plus intéressant. Donc quand on a mis la tourbe par-dessus, on passe le rouleau deux fois. Et un bon arrosage bien humidifié en pluie très fine, le matin et le soir, au moins 5 à 10 minutes pendant 10 jours.
Pourquoi est-ce que c'est important de faire une pluie fine sur le gazon ?
Parce que si on fait une pluie que l'eau ruisselle, en fait, la graine va ruisseler. Après, ça va faire des amontes de graines. La graine va se répartir à certains endroits. Il y en aura un peu plus et ça ne sera pas régulier, quoi.
D'accord. D'où l'intérêt, donc, de le faire avec beaucoup de délicatesse.
Voilà, oui.
Pour le gazon, est-ce que vous avez d'autres recommandations, Serge ?
Bon, après la première tonte, il va falloir attendre une quinzaine de jours, je pense, si le temps est bien chaud. Donc, quand le gazon est bien sorti entre 10 et 15 cm, il va falloir tondre pas trop ras parce qu'autrement on va aspirer les particules de jeune gazon. Et il faudra repasser le rouleau quand on a fini la tonte pour remettre les graines en place et les jeunes particules de gazon. Et surveiller toujours l'arrosage, qu'il soit toujours bien humidifié, c'est très important.
On arrose combien de fois par semaine ?
Après, là on va arroser, s'il fait très chaud, il va falloir arroser au moins un quart d'heure tous les jours.
Un quart d'heure et de préférence plutôt en fin de journée ?
Toujours le soir, c'est mieux, oui, tout à fait.
Et pourquoi plutôt le soir ? Expliquons plus.
Et parce que ça garde la fraîcheur de la nuit, en fait. Hein. C'est mieux, quoi.
Voilà, en toute logique.
C'est nettement mieux pour le gazon, quoi. Pour l'entretien, et on va passer, donc, si vous avez déjà le gazon qui est déjà en place depuis très longtemps, à faire vos tontes tous les 10 jours, comme on avait dit la dernière fois. Si vous avez une tondeuse mulching, c'est très bien. Au moins, vous n'avez pas de panier derrière, qui va faire en même temps un engrais vert, puisque le gazon est broyé, il reste sur le gazon que vous avez actuellement. Ça vous fait donc un engrais vert, et c'est super pour le gazon.
Et on s'économise, accessoirement.
Tout à fait, oui, on s'économise.
Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour entretenir les gazons ?
Les gazons, passer dans l'engrais. L'engrais, c'est automne, printemps et été, en mettre trois fois dans l'année au moins, pour le conserver, pour qu'il soit plus ou moins bien vert, hein. C'est très important et surtout bien arroser quand on met les engrais derrière. Hein. Et à mettre les engrais, pareil, en engrais organique naturel, quoi, dans du bio. Moi, je ne suis pas chimique du tout.
Nos auditeurs l'auront bien compris depuis cette troisième édition de Radio Jardin. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ?
On va passer dans les arbustes d'été, tout ce qui va fleurir en été. Il y en a pas mal, quoi. Caryopteris, c'est un très bel arbuste qui est dans le mauve violet, qui fleurit une grande partie de l'été. Après, on va avoir le lavater. Le lavater est un arbuste aussi qui va monter 1 mètre, 1,20 m, 1,50 m, très très joli. Il y a plusieurs couleurs là-dedans, mais ça, il faut les mettre plutôt en arrière de massif parce que ça monte assez haut en fait. L'orée rose, que tout le monde connaît, ça fleurit tout l'été aussi. Il y a plusieurs couleurs, du rose, du blanc, enfin, beaucoup de couleurs là-dedans. Lilas des Indes, très joli aussi, qui fleurit une partie de l'été, à partir du mois de juillet jusqu'à septembre. C'est un très bel arbre. Après, l'arbre à papillons, le budélia, qui est très très beau. Les papillons, ils adorent ça, c'est pour ça qu'on appelle ça l'arbre à papillons.
Ce qu'il faut démontrer.
Le tamaris aussi, très joli. Tamaris, je parle du tamaris parce qu'il y a le printanier et l'estival, qui est très joli. Il y a du rose, du mauve. Très sympa aussi à mettre en isolé ou en groupe. C'est parce qu'il devient assez important quand même. Le perosquia aussi, très beau. Il ressemble un peu à la lavande, qui sent très bon quand on touche ça. Dans le couleur bleu-mauve aussi. L'hibiscus ou l'altea aussi, très joli, qui va fleurir au mois de juillet-août jusqu'au mois de septembre-octobre. Très belle fleur dans le rose, rouge, blanc, mauve. Le choisia qui est persistant, qui est en train de fleurir actuellement, vert, et qui fait une fleur blanche et qui va fleurir une bonne partie de l'été. Potentilla est très intéressant aussi. Petite fleur jaune qui fleurit pratiquement tout l'été. Alors vous avez du jaune, de l'orangé et du blanc. Très intéressant. L'abélia aussi, arbustif persistant, qui fleurit une grande partie de l'été. Le millepertuis arbustif, parce qu'il y a le rampant aussi. L'arbustif, c'est dans du jaune aussi, ça fleurit tout l'été. Et après, il y a l'hortensia aussi, à mettre plutôt en mi-ombre. C'est mi-ombre et terre de bruyère, bien sûr.
De belles couleurs pour le jardin, en fait.
Oui, on va penser aussi aux plantes grasses, qui sont très, très intéressantes, parce qu'ils ne demandent pas beaucoup d'eau, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc, on a à mettre dans des pierres, si vous avez des belles pierres avec des trous, ou des beaux murs avec de la rocaille, on peut mettre ça entre. La joubarbe, le sédum, poivre des muralis, saponaire, campanule carpate et phlox subulé. Donc ces plantes grasses sont très intéressantes en fait parce qu'on ne les arrose pas beaucoup. Quoi. On va les arroser une fois tous les 10 jours, 15 jours, ça suffit. Quoi. Donc c'est très bien et ça reste vert toute l'année, c'est sympa à l'œil. Après, on va passer dans la plante économique en eau. Pour la région, je pense que c'est assez intéressant, la plante économique. Et puis en plus, on a beaucoup de belles couleurs, comme le pavot de Californie, où il y a du jaune, de l'orangé, des multitudes de couleurs, vraiment très, très, très jolies. La lavande que tout le monde connaît, dont la lavande courante. Il y a la lavande anglaise aussi, qui est très jolie, la lavande papillon, la tige est un peu plus écartée, très sympa. Donc tout ça, ce sont des plantes très très économiques en eau. La gaillarde aussi, plante vivace qui va fleurir tout l'été. C'est très 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 intéressant comme plante. En mettre en massif ou même dans des grosses potées. Le lantana que tout le monde connaît, qui fleurit pratiquement tout l'été aussi. Le portulaca qui est plus dans la plante grasse, qui s'arrose au moins une fois par semaine, ça suffit. La santoline aussi, que tout le monde connaît, fleur jaune, et la feuille est un peu argentée, quand on touche, ça sent très bon. La styricus dans le jaune aussi. Rose trémière, qu'on voit de partout, je pense que tout le monde connaît la rose trémière. Ça ne demande pas du tout de l'eau. Quoi. Les agapantes, très jolies, en bleu, des gros pompons bleus. Les gueules de loup, très jolies aussi. Après, on est dans les petits arbustes, dans le buis qui pousse dans la colline. Ça ne demande pas du tout d'eau. On peut les tailler en arrondi, comme on avait dit la fois d'avant. L'aubépine aussi, qui pousse très bien dans les jardins, qui ne demande pas d'eau. L'oriétain, Zélianus aussi. Donc tout ça, ce sont des plantes où on peut faire d'agréables massifs, mettre dans des potées, dans un endroit bien précis du jardin et du gazon, qui vont fleurir tout l'été sans demander beaucoup d'eau. Bien sûr, au début de la plantation, il faut arroser au moins une ou deux fois par semaine en été. Mais l'année d'après, après une fois par semaine, ça suffit largement. Alors on est dans des plantes très, très, très bien pour la saison et pour la région. À savoir que dans les jardineries, vous avez toutes les belles potées qui sont arrivées, comme on avait dit l'autre fois. Les géraniums, tout ça, c'est tout arrivé. Les œillets d'Inde, toutes ces belles plantes sont arrivées dans les jardineries. Donc profitez-en, plantez. Allez-y doucement sur les excès d'eau. Un jour oui, un jour non, c'est pas la peine d'arroser tous les jours parce que les plantes, c'est pas recommandé, quoi. Pareil sur les engrais, toujours respecter les dosages. Dire on va mettre un doseur de plus, ça sert à rien, vous allez brûler la plante, c'est pas bien.
Donc on privilégie en fait pour tout le jardin un arrosage alterné, un jour oui, un jour non, c'est bien ça?
Moi je préfère, oui. Ça, au niveau de la plante, ça la rend plus rustique, plus résistante. Mm-hmm. Parce que si on arrose plus régulièrement, au niveau des racines, la plante devient... Et puis ça dépend après de l'endroit où elle est plantée, si c'est plus argileux, ça risque de pourrir au niveau des racines, c'est pas...
Donc vaut mieux faire des économies en eau. Pour votre facture, c'est bien, et pour votre jardin, c'est encore mieux.
Tout à fait, oui.
Est-ce que vous avez d'autres conseils pour les plantes économiques en eau à nous donner?
Comme je vous disais, les plantes grasses, c'est très très intéressant. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'endroits où on a beaucoup d'endroits de murets en pierre sèche, avec de belles pierres, avec de beaux trous. On peut y mettre donc des sédums à l'intérieur. J'en ai fait là récemment dans un très beau jardin, avec de très grosses pierres. On a mis des sédums, des poivres muralis. Ça ressort très bien et puis c'est vraiment économique en eau, quoi. On arrose une fois tous les 10 jours, 15 jours. Quoi.
Et ça, on peut les mettre en plein soleil sur les murets ou pas?
Ça, il faut du plein soleil.
D'accord.
Ça, il ne faut pas de l'ombre, ce sont des plantes qui demandent du plein soleil. Hein.
Donc d'autant plus pratique.
Du plein soleil, puisque bon, la plante grasse, au niveau de la feuille, ça retient bien l'eau, donc elle a des réserves en eau, quoi. Donc c'est important.
Est-ce qu'on peut parler de notre invité du jour maintenant, Serge, ou est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter?
Pour le moment, ça va aller. Moi, aujourd'hui, j'ai amené mon amie Marie, une grande fleuriste.
Bonjour Marie.
Bonjour. Merci Serge. Je suis venue vous parler des plantes dépolluantes aujourd'hui. Plantes que nous retrouvons facilement chez les fleuristes et en jardinerie. Nous appelons donc plantes dépolluantes parce qu'elles assainissent l'air. Ce qui concerne tout ce qui est monoxyde, les bougies quand elles brûlent, l'encens, les gaz.
Les fumeurs peut-être également?
Les fumeurs également aussi. Donc vous pouvez retrouver toutes sortes de plantes telles que les chlorophytomes, les dracéna, les schefflera, enfin toutes sortes de plantes diverses et variées.
Et est-ce qu'on peut mettre n'importe quelle plante dans n'importe quelle pièce?
Alors, certaines sont conseillées pour certaines pièces, notamment dans les salons. On ira plus vers des plantes telles que le pothos, le ficus.
Quincia aussi, je pense.
Le quincia, la fougère. Mais elles ne font pas toutes le même travail. Et certaines sont plus conseillées pour le monoxyde, d'autres sont plus conseillées pour les gaz. Il faut bien choisir sa plante et bien l'entretenir.
Et ça, les gens peuvent vous demander conseil dans votre boutique, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Ils peuvent venir me retrouver dans ma boutique 4 rue Arthur Robert sur Manosque sans aucun souci.
Alors pour les gens comme moi qui ne sont pas familiers avec les noms de rue, c'est la rue qui descend du terreau vers la place de la mairie.
Exactement. Voilà. Avec le terreau, une heure gratuite.
Incroyable. Donc on peut venir admirer les fleurs pendant une heure, rendez-vous compte, c'est formidable.
Merci.
Alors, qu'est-ce que on peut faire avec ces plantes dépolluantes? On en met beaucoup dans la maison? Comment ça se passe?
Pas forcément beaucoup. À des endroits stratégiques, il faut que la maison, l'endroit choisi s'y prête. On ne met pas de plantes devant une fenêtre ou dans un courant d'air. Il faut qu'elle ait une place qui soit très éclairée. Et bien sûr qu'on n'oublie pas de l'arroser tous les 10-15 jours. Pour certaines variétés, cela suffit.
Donc là aussi, avec parcimonie pour l'arrosage.
Oui, parce qu'il y a eu une grande époque où on disait d'arroser nos plantes d'intérieur toutes les semaines. Et en fait, c'est faux. Il faut parfois laisser sécher le terreau entre deux arrosages.
Alors expliquez pour les gens qui ne sont pas familiers avec les plantes vertes, pourquoi pas devant une fenêtre et pourquoi pas dans un courant d'air?
Alors, pour devant la fenêtre, le fait est que le soleil tape sur la vitre et les feuilles brûlent, enfin, ça sèche. Donc, ça.
Le soleil direct, c'est pas bon pour les plantes, en fait.
Pardon ?
Le soleil direct n'est pas bon pour les plantes.
Voilà, vous le saurez, comme ça.
Et en fait, le courant d'air, sur certaines plantes, telles que le ficus, ça leur fait perdre les feuilles. Et c'est des plantes qui sont plutôt d'origine exotique et elles ne supportent pas. Elles sont frileuses.
Très bien. On continue sur ces plantes dépolluantes.
Donc, je vous laisse la parole. Que, je ne sais pas, tu dois savoir. Pour les chambres de bébés, le Chlorophytum, le Dracaena et les Fougères Boston sont les mieux adaptés, en fait. Donc, pas mettre certaines plantes qui n'iraient pas, quoi. Comme le croton, qui est une plante toxique, c'est pas bien, quoi. Donc, il faut privilégier le Chlorophytum, Dracaena et Fougères Boston. Marie saura vous expliquer quand vous irez la voir au magasin à la rue Arthur Robert.
Quelque chose à rajouter, peut-être, Marie ?
Il était dit avant que les plantes n'étaient pas bonnes pour les chambres parce qu'elles absorbaient l'oxygène, chose qui est fausse. On peut mettre des plantes dans les chambres. C'est comme les Léons dit, d'arroser toutes les semaines. En fait, il faut adapter l'arrosage à chaque plante. Et de même, ça aussi c'était faux, qu'on ne pouvait pas mettre de plantes dans les chambres.
Oui, comme vous le disiez, ça assainit l'air au final.
Au final, oui. Ça dépollue notre air qui est déjà...
Un peu vicié des fois, oui.
Oui,
qui est pollué. En fait, les mauvaises odeurs, tout ce qui est pollué, tout ça va passer par le feuillage, en fait, par la feuille et les tiges, et va aller à la racine, et qui va jouer la photosynthèse et qui va dépolluer donc, notre mauvais air dans les pièces.
Eh bien, c'est un bon conseil pour toutes les mamans d'ados avec les jambes qui puent, en l'occurrence. Ouais. On est bien d'accord.
Oui.
Mettez des plantes vertes dans la chambre de vos ados.
Dans les bureaux, tout ce qui est lieu public, tout ça, on met de plus en plus de plantes vertes, d'ailleurs, parce que paraît-il que ça apaise le moral, les gens sont déstressés. Et travaille plus volontiers quand il y a des plantes vertes, c'est meilleur pour le moral.
Bah c'est sûr que le cadre est plus sympathique avec des plantes vertes. Je pense que dans votre boutique,
oui.
Vous vous sentez bien.
Oui, et toutes les personnes qui rentrent dans la boutique se sentent très bien. Souvent me disent, j'aurais aimé être fleuriste.
Ah, c'est sûr d'être entourée de plantes comme ça. Alors, est-ce que vous leur parlez à vos plantes ?
Pas spécialement. Si, je leur parle quand elles me font un peu la tête, je leur dis, allez... Il faut se remettre en état avec un bon arrosage et c'est reparti.
Il faut leur parler, Marie. Moi, je parle tous les jours à mes plantes dans le jardin.
C'est bien, vos voisins ne doivent pas du tout vous trouver bizarre à parler à vos plantes. Et oui, donc ce n'est pas un mythe. Alors, il faut parler aux plantes.
Moi, je parle des fois. Ce matin, je vais vous dire un truc, ça va être bête, mais je travaillais dans une belle villa. Il y avait une piscine, il y avait une abeille qui était tombée dans la piscine. Je suis allé prendre l'abeille, je l'ai sortie de l'eau, je l'ai mis en plein soleil et j'ai soufflé dessus pour la réanimer, pour la remettre. J'ai horreur de voir les trucs, les abeilles, les petits trucs comme ça.
Oh, Serge, l'ami des animaux. L'homme qui parlait aux oreilles des abeilles, je ne suis pas sûre qu'elles aient des oreilles, mais en tout cas l'intention y est.
Mais bon, moi je dis que Marie est une très grande fleuriste.
Merci.
Donc pour les plantes vertes, tout ce qui est bouquet de fleurs et tout... Vous pouvez y aller, à la rue Arthur Robert, vous ne serez pas déçus en fait.
Merci beaucoup, c'est gentil.
En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui, Marie, c'est très gentil.
Mais elle reviendra.
C'est tout un honneur, ça me fait bien plaisir à moi aussi d'être parmi vous.
Fréquence Mistral sera ravie de vous accueillir à nouveau de toute façon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et on va poursuivre avec le reste de l'émission, c'est-à-dire le bassin en kit.
Alors, bassin en kit, ça veut dire quoi ? C'est un bassin en PVC en fait, il y a plusieurs dimensions. On met ça dans un endroit bien précis du jardin, en fait, on va dire, pour entendre le bruit de l'eau, qu'il ne soit pas très loin d'une terrasse ou d'un gazon, en fait, qu'on va manger à côté, quoi. Qu'il ne soit pas trop en plein soleil, parce que ce n'est pas recommandé pour l'évaporation de l'eau. Les bassins en kit sont vendus, en fait, de différentes formes, en rond, en carré. Il faut faire un bon trou de la grosseur de votre bassin en kit, légèrement plus gros. Au fond du trou, vous faites un apport de sable pour reposer votre bassin dessus, en fait. Et après, on va aussi mettre du sable tout autour, très léger, et on va rhabiller de terre tout autour. Et après, bon, il est vendu avec une pompe, toujours est-il. Il y a la pompe et le bassin. Il faut toujours regarder que la pompe soit assez puissante. Vous allez me demander pourquoi. On peut faire éventuellement...
Pourquoi ? Je vous demande pourquoi.
Pourquoi ? Parce qu'on peut faire ou un jet ou une cascade. Moi, j'aime beaucoup les cascades dans les bassins. Les cascades en deux parties, c'est pour ça qu'il faut une pompe assez puissante, qui est un retour assez important. Parce que si on fait deux niveaux, en fait, on va faire passer des pierres pour faire retomber l'eau, qu'on entende bien l'eau retomber. C'est le but de la cascade, c'est joli. Après, il faut bien habiller aussi le tour du bassin. Ne jamais laisser, parce que le bassin est principalement toujours noir, les bords du bassin habillés avec des pierres tout simplement, ou des gros galets, ou des pierres avec des trous, bien cacher toutes ces bordures tout le tour, y mettre des plantes comme on a cité, des plantes grasses, des plantes fleuries, derrière avec des volumes différents bien sûr, et faire une cascade.
Alors, simple question purement pratique, vous disiez que le bassin est à mettre, pourquoi pas à proximité d'une terrasse, est-ce que ça ne risque pas d'attirer les insectes ?
Il peut y avoir quelques insectes, mais bon, c'est pas le... Il faut y mettre des poissons dedans en fait.
Pour qu'ils mangent les insectes.
Y mettre 2-3 poissons rouges, même une petite rainette, c'est sympathique. Moi, je l'ai fait dans des jardins. Mais y mettre 2-3 poissons rouges, c'est bien parce que ça va manger les insectes.
D'accord. Donc, chaque solution...
Habiller le bassin, comme je vous disais, tout le tour. Ne pas laisser les bordures en noir. Mettre bien caché, faire tout le tour si le bassin est rond. Mettre les pierres pour bien cacher, les faire même bien déborder sur l'eau un petit peu de 10 cm, que ça fasse comme si c'était naturel en fait. Hein. Et choisir l'endroit de la cascade ou sur le côté ou devant, à voir où c'est que vous avez mis votre table. Et faire après jouer avec les volumes de plantes. C'est vraiment très beau un bassin. Hein. Moi, c'est mon truc. Moi, j'en fais beaucoup des bassins et c'est très intéressant. Les gens, quand ils voient le bassin, ils sont vraiment contents.
Puis ça permet d'avoir un petit endroit zen dans le jardin également.
Oui, tout à fait. Et puis quand le bruit de l'eau, en fait, c'est reposant aussi.
Tout à fait.
Moi, j'avais mon tonton qui était aveugle. Il me disait toujours, quand je vais me promener dans les jardins, j'entends l'eau qui coule. C'est vrai que c'est reposant.
Comme quoi, on peut apprécier même sans voir les jardins.
Oui, c'est vrai. Tout à fait.
On continue sur ces bassins en kit après ce petit moment de poésie. Qu'est-ce qu'on peut faire, comme donc vous disiez, des plantes grasses pour habiller ce bassin en kit? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre autour?
Après, on peut jouer avec de très belles plantes de saison, hein, qui vont fleurir toute la saison, mettre des beaux lantanas, des portulacas, des tas de fleurs qu'on va choisir dans la jardinerie hein, au cerf des Guintrans, chez un très bon producteur où vous avez des fleurs pas très chères. On peut même y mettre un beau rosier paysager. L'avantage, c'est que vous allez le garder pendant plusieurs années et qu'il va fleurir, comme on disait, la deuxième émission, qui va fleurir du mois de mai jusqu'au gelé.
Oui, donc ça vaut le coup, pour avoir un joli visuel près
après,
de ce...
Après, on a des très beaux formiums aussi, un peu dans la plante plus haute, vert et jaune, c'est très beau aussi, à mettre derrière une très belle pierre, ça ressort au niveau du bassin, c'est très joli. On peut y mettre un buis boule très bas aussi, avec une très belle forme. On peut faire des tas de trucs.
Donc, de quoi vous occuper pendant les longues journées d'été?
Ça, c'est sûr.
Alors, je pense qu'on va mettre une petite fin sur notre émission, mais pas avant d'aborder le thème de la semaine prochaine.
La semaine prochaine
Dans 2 semaines, pardon.
Dans 2 semaines. Aménagement d'un talus avec les plantes adaptées, c'est très intéressant. Parce que ici dans la région, on a beaucoup de talus.
Oh oui.
Donc il faut trouver des plantes qui soient adéquates. Hein. Les accès, les chemins à faire avec des rondins ou autre chose, je pense que c'est bien. À les aménager après avec des petits gravillons aussi. Les plantes grimpantes, le choix, ça aussi c'est très intéressant. Création d'une rocaille, c'est une valeur sûre dans un jardin. Et la taille des arbustes de printemps, parce qu'il y a certains arbustes où la floraison est finie, donc il va falloir les tailler. On donnera 2-3 petites explications pour la taille. Et voilà, je pense que ça devrait aller.
Alors, avant de quitter nos auditeurs, puisqu'ils ne pourront pas vous avoir avant 2 semaines, s'ils souhaitent vous contacter, ils peuvent le faire à votre numéro que vous allez donner tout de suite.
Donc, vous pouvez m'appeler pour toutes les questions que vous voulez concernant le jardin au 06 23. J'ai un trou.
Oula, vous m'en demandez beaucoup. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur la page du site internet de Fréquence Mistral sur Radio Jardin, où vous retrouverez le numéro de téléphone. Il me semble que Serge a à nouveau le numéro de téléphone.
Excusez-moi, 06 23 50 94 97. Et jardiner, c'est la santé.
On va vous quitter sur cette note agréable. Merci à vous, Serge, et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt.
Au revoir. Thank you.